En fait, aujourd'hui, Saint-Justin, c'est un quelqu'un qui habitait près de Samaritaine, de Samarie. Il a dû naître à peu près à la... Il a dû quitter la Samarie. Au moment de la destruction de Jérusalem, vous savez, quand il y a eu 90, ou sa famille, parce que en l'an 150, il était philosophe. Et en l'an 50, il a créé une école de philosophie à Rome. Voilà, donc quand il a eu l'âge de 50 ans, ben, il a écrit un livre pour discuter avec les Juifs de Rome. Pour leur expliquer, quoi. Pour donner. C'est une apologie. L'apologie des chrétiens, je crois. Il a écrit un deuxième écrit qui s'appelle L'apologie des chrétiens, qu'il a donné à l'empereur Antonin, l'empereur de Rome. C'est bizarre ce qui s'est passé avec Ponce Pilate, qui était le représentant de l'empereur à Jérusalem, et le rôle des représentants juifs de la synagogue qui ont livré Jésus, quoi. Hein, vous voyez, c'était dur quand même, hein, cette période en plein Jérusalem. Et puis ça a continué, hein, ça a continué après la résurrection. Les Juifs formaient une autorité, hein, qui faisait en sorte que l'autorité romaine puisse détruire le Christ, hein, persécuter le Christ, persécuter les chrétiens. Ils se sont obstinés, hein, malgré tout, malgré les miracles, malgré les résurrections des morts, malgré la résurrection, malgré la Pentecôte, malgré les grâces inouïes, intimes, profondes qui ont été reçues, malgré... Vous vous rendez compte qu'on mettait les... Par foule, on mettait les malades pour que l'ombre de Saint-Pierre puisse toucher les seulement. Et ils étaient tous guéris, malgré les signes, les prodiges, tout ça. Ils sont obstinés à livrer les gens à la persécution, les femmes, les enfants. Une rage incroyable. Eh bien, ça a continué. Hein, 150 ans après, en l'an 150, voilà, 100 ans après, ça continuait. C'est Saint-Justin. Eh bien, les chrétiens, ils allaient dans les synagogues, comme Saint-Paul, comme Apollos. Et puis, il disait, mais enfin, pourquoi il y a... C'est pourtant d'une immense clarté, quoi. Pourquoi on est des frères, et puis... On est les descendants d'Abraham, enfin, de Moïse. Il faut rester fidèle à Abraham et à Moïse, quand même. Pourquoi se retourner et... Et donc, ils parlaient, ils évangélisaient. C'était plus que de l'argumentation, c'était... On vivait ensemble dans ces villes-là, à Rome. Voilà, donc les deux seuls livres qu'on avait de Saint-Justin, c'est ça, Il a attendu d'avoir 50 ans pour écrire ce livre, parce que c'est dans la Torah. Hein. Tu ne t'exprimes pas avant d'avoir 50 ans. Voilà. Et puis, l'empereur, lui, il n'est pas du tout inintéressé, donc il a dit, ben, explique-moi, donne-moi un truc. Il a fait. Il y a un deuxième écrit, c'est l'apologie. l'apologie de Chrétien. Faut qu'on a encore, hein. Voilà, comme je viens de vous le lire, mais c'est les Juifs, ils sont réunis, ils avaient une puissance très forte, hein, à Jérusalem, mais à Rome aussi. À Rome, la puissance des Juifs était très 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 grande. Et donc c'était un groupe de pression extrêmement forte sur l'empereur. Enfin, en tout cas, très influent. Voilà, ils ont demandé qu'ils soient persécutés, qu'ils soient condamnés, qu'ils soient... Lui, et puis ses élèves, et ses compagnons, et son école, et tout ça. C'était dans les lectures de Matine. Et puis après, il y a eu Néron. Ah, Néron, qu'est-ce qui s'est passé? On sait très bien, c'est aussi pareil, le même processus. Exactement le même processus, c'est les synagogues des Juifs qui étaient extrêmement influentes à Rome. Et puis qui ont réussi à convaincre Néron. Ils ont une influence très très forte sur Néron. Enfin, ils ont toujours une très grande influence. Ben, aujourd'hui, à Paris, c'est pareil. Hein. Les francs-maçons ont une très grande influence sur la société. Et donc, on incendie les chrétiens. Et on les accuse, eux, d'être des satans. C'est eux les coupables de toute chose, de toute horreur. Ça n'a pas changé. Hein. C'est les mêmes. On a les mêmes. On a affaire aux mêmes. Ça n'a pas changé. Si on peut dire que c'est une vocifération, une haine, une possession de Satan et de Moloch qui est. Persévère, parce qu'on se trompait, on peut se tromper, mais persévérer comme ça pendant 2000 ans sans s'arrêter, faut le faire quand même. Faut vraiment y arriver, quoi. Et Néron, il a envoyé ses soldats, enfin, parce que incendier toute une ville, je m'excuse, mais enfin, faut avoir le pouvoir pour ça. Hein. Tu n'incendies pas une ville comme ça, voilà. Du jour au lendemain, ça y est, la ville est incendiée. Non, il faut avoir les moyens pour ça. Mais c'est sous l'influence des synagogues de Rome que Néron a dit, voilà, ben, c'est les chrétiens. Et les synagogues de Rome disent, oui, c'est des chrétiens. Et c'est les chrétiens qui ont été accusés, responsables de l'incendie de Rome. C'est comme la cathédrale de Marie, personne ne peut faire. Mettre des bombes de cette ampleur pour incendier une cathédrale de cette impossible, strictement impossible à incendier. Même s'ils seraient mis à 50 avec de l'essence, ils n'auraient pas réussi à l'incendier. Non, il fallait des moyens. Mais ce qu'il y a derrière cette haine, cette... Et derrière, il y a Moloch, hein, il faut sacrifier les enfants dans des cultes des Sulfuriens pour se donner la force de faire des trucs. Et Saint-Justin, il représente ça. Néron est venu après. Mais c'est la même chose à chaque fois. C'est pour ça que l'Église en fait une mémoire de Saint-Justin. Parce qu'on voit quelqu'un qui vient de Samarie, on voit quelqu'un qui vient de la... Il y a eu un grand mouvement quand même, après la destruction du temple de Jérusalem et puis le génocide des Juifs de Palestine, parce que bon, ça avait fini par énerver les Romains en Palestine quand même, de voir ce genre de... Voilà, donc les chrétiens, ils sont partis avant le génocide de Palestine. fait partie, donc tout de suite après, l'histoire d'Israël qui se termine avec la destruction totale du peuple de Dieu, enfin l'anéantissement, il n'y a plus de peuple de Dieu, de l'ancienne alliance. C'est la diaspora jusqu'à la fin du monde. Ben, les premiers chrétiens, la première génération, ben, Justin, c'était du vivant de Saint-Jean, hein. Et oui, c'était du vivant de Saint-Jean, c'était... Il a émigré à du vivant de Saint-Jean. Il l'a probablement pas connu. Quoique, on n'en sait rien, parce qu'à un moment, Saint-Jean a été transféré à Rome. Où il a été persécuté, enfin où il a été mis à mort, Saint-Jean. Mais ça n'a pas marché, mais n'empêche qu'il a quand même été plongé dans l'huile bouillante. Saint-Jean, et c'était à Rome, Justin était à Rome après tout. Peut-être qu'il a aperçu Saint-Jean. J'en sais rien, mais ça aurait pu, c'est pas impossible. Enfin, c'est la génération après les apôtres. De génération en génération. La génération d'après, c'était Néron. Il faut voir ce que c'est que la vie chrétienne, du point de vue de l'histoire. Aujourd'hui, 80%, 82%, je crois, dans le monde, des gens tués pour leur foi, c'est des chrétiens. C'est ça l'histoire. Ça fait partie de l'histoire. On peut dire que les populations se sont habituées 2000 ans à ce que ce soit normal. Ils n'ont pas voulu écouter, simplement même entendre, ils ont bougé les oreilles, ce que je leur disais. Mais vous, c'est pareil, vous écouteront pas. Alors je m'en vais vers le Père et je vous donnerai vous recevrez la troisième personne de la Très Sainte Trinité comme force. Qui sera votre force, la présence, la communion avec les personnes divines de la Très Sainte Trinité. Mais cette espèce de présence, cette force intérieure du Saint-Esprit, qui va faire que vous allez continuer à rester simple, à continuer à aimer les juifs, les persécuteurs, les obstinés, les enfants de Moloch. Vous allez continuer à vivre avec eux, j'allais dire à être leurs esclaves, parce que c'est les chrétiens qui travaillent, et c'est les riches et les tyrans qui se nourrissent du fruit de leur travail, dans l'opulence. C'est normal, c'est comme ça, les chrétiens ils continueront à le faire, à essayer d'être cette espèce de sève intérieure de l'humanité qui du coup continue à travailler, continue à se nourrir, continue à éduquer, continue à faire que l'ensemble de la société soit quand même respirable. Enfin, l'apologie de Saint-Justin, l'empereur, Antonin. Ils sont tous simples, les chrétiens, en fait. Ils ont toujours été. Et ils le seront toujours. Alors, les compagnons, avec Justin, furent arrêtés, conduits au préfet de Rome, et comparureur devant le tribunal. Et Rusticus, le préfet, le juge, dit à Justin, avant tout, soumets-toi aux dieux, soumets-toi aux idoles, aux dieux de Rome et obéis aux empereurs. Et Justin, à ce moment-là, il devait avoir certainement été âgé, quoi. Il avait dû professer pendant 20 à 30 ans, il devait avoir 70-80 années. Justin répondit, on ne peut pas nous accuser ou nous condamner parce que nous obéissons aux préceptes de notre Sauveur Jésus-Christ. Il était connu, hein, puisqu'il avait des relations avec l'empereur Antonin avant, avec les francs-maçons de l'époque, bon, la synagogue. Le préfet Rusticus répond, quelles sont les doctrines que tu professes ? Justin répondit, j'ai entrepris d'apprendre toutes les doctrines. Mais j'ai adhéré aux doctrines de la vérité. Elle est chez les chrétiens, bien qu'elle ne plaise pas à ceux qui sont prisonniers de l'erreur. Et ces doctrines-là te plaisent pour un malheureux ? Oui, elles me plaisent parce que, en les suivant, je trouve la vraie foi, la foi véritable. Quelle est cette foi? C'est quoi cette croyance? Eh bien, nous vénérons le Dieu des chrétiens. Nous croyons qu'il est un, qu'il est le Créateur. Il est l'artisan dès le commencement de toute la création. De l'univers visible et invisible. Nous le croyons et nous vénérons le Seigneur Jésus-Christ, qui est serviteur de ce Dieu en qui nous croyons et qui a été annoncé à l'avance par les prophètes. Il a été annoncé comme devant venir au secours de la race de tous les hommes. Il est venu en messager du salut et maître des plus belles connaissances. Et moi, qui ne suis qu'un homme, eh bien, j'estime ne pouvoir dire que peu de choses sur sa divinité sans limite. Mais je reconnais la puissance des prophètes. Ils l'ont annoncé à l'avance, avec précision, comme je viens de le dire. Et ils ont annoncé aussi qu'il est Dieu, le Fils. Sache donc que les prophètes ont prédit, par une inspiration venue d'en haut, céleste, son avènement parmi les hommes. Le préfet Rusticus reprit, mais en somme, bon, pour résumer, tu es chrétien. Justin répond, oui, je suis chrétien. Et le préfet lui dit, écoute, toi qui es connu et que tout le monde dise savant, toi qui t'imagines posséder les doctrines véritables, si tu es fouetté, puis décapité, est-ce que tu crois que tu vas monter au ciel? Et Saint Justin dit, j'espère que j'y aurai ma demeure si je supporte tout cela. Et je sais que pour tous ceux qui auront bien vécu, la récompense de Dieu est réservée jusqu'à la destruction de l'univers. Tu supposes donc que tu vas monter au ciel pour recevoir de belles récompenses. Je ne le suppose pas, mais je le sais avec certitude. J'en suis absolument sûr. Le préfet Rusticus reprit bien. Allez, bref. Venons-en à notre sujet. faire qui s'impose et qui presse. Mettez-vous donc d'accord et tous ensemble sacrifiez au Dieu de Rome. Justin répondit : aucun homme de bon sens ne peut abandonner la piété pour tomber dans l'impiété. Si vous n'obéissez pas, mais vous serez châtié, mais cruellement. Justin répliqua : c'est tout ce que nous désirons. Être sauvés en étant châtiés à cause de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est cela qui nous donnera le salut et assurance devant un tribunal bien plus redoutable, celui où tout l'univers sera jugé par notre Seigneur et notre Sauveur. Et les autres compagnons de Justin, les autres martyrs, déclaraient pareillement : fais ce que tu veux, nous sommes chrétiens et nous ne sacrifions pas aux dieux et aux idoles de Rome. Le préfet Rusticus rendit la sentence : ceux qui n'ont pas voulu sacrifier aux dieux et se conformer à l'ordre de l'empereur, qu'ils soient emmenés pour être flagellés et qu'ils subissent la peine capitale selon les lois. Les saints martyrs, glorifiant Dieu, se rendirent au lieu ordinaire des exécutions et ils furent décapités et ils consommèrent leur martyre de cette manière en confessant notre Sauveur. Méditation de l'Évangile qui nous est proposée est du pape Benoît XVI. Nous croyons en Dieu, c'est ce qu'affirme les parties principales du credo et ce que souligne en particulier la première partie du « Je crois en Dieu ». Mais à présent, surgit immédiatement la deuxième question. En quel Dieu nous croyons ? Eh bien, nous croyons précisément dans le Dieu qui est l'Esprit créateur, la raison créatrice dont tout provient et dont nous provenons nous aussi. La seconde partie du credo, l'exprime et en dit davantage. Cette raison créatrice est bonté. Cette raison créatrice est amour. Elle possède un visage. Dieu ne nous laisse pas avancer à tâtons. Il s'est révélé en tant qu'homme, il s'est révélé. Il est si grand qu'il peut se permettre de devenir tout petit. Il s'est révélé dans son humanité. Celui qui m'a vu a vu le Père. Oui, Dieu a revêtu un visage humain. la raison créatrice de Dieu. Le Dieu nous aime. Il a revêtu un visage humain pour nous aimer au point de se laisser clouer sur la croix pour nous. Et pour pouvoir, et pour apporter les souffrances de l'homme jusqu'au cœur de Dieu. Et aujourd'hui, alors que nous connaissons les maladies, les souffrances, les pathologies, les maladies mortelles de la religion et de la raison, les destructions de l'image de Dieu à cause de la haine et du fanatisme, il est important de dire avec clarté dans quel Dieu nous croyons. Il est important de dire avec clarté qui est le Dieu en qui nous croyons et de professer de façon convaincue ce visage proche et humain de Dieu. Seul cela nous libère de la peur de Dieu. Un sentiment dont, en définitive, naît l'athéisme moderne. Et l'athéisme moderne émane de la peur de Dieu. Seul ce Dieu peut nous sauver de la peur du monde et de l'inquiétude face au vide de notre existence. Ce n'est qu'en regardant Jésus-Christ que notre joie en Dieu atteint sa plénitude et que elle devient une joie rachetée. Résumé, hein? Jésus, c'est le Dieu tout-puissant, créateur de tout ce qui existe. Et puis, et en même temps, c'est l'amour tout-puissant de Dieu qui vient nous sauver. Et les deux ne sont pas loin de nous. Puisque c'est. Ils ont établi leur proximité, leur intimité et leur joie à vivre en nous. Tu ne peux pas faire plus intime, plus proche. Il est impossible d'avoir peur de Dieu. Tandis que quand vous faites partie des idoles, hein, des dieux de ce monde, et bien vous êtes terrorisés. Vous devez servir par exemple Moloch, hein, dans les loges opératives. Mais si vous ne pratiquez pas le meurtre de ces enfants pour les offrir à Moloch, c'est vos enfants qui risquent, qui sont menacés, hein, de la mort. Vos parents, votre sang, vous êtes tenus. Ah d'accord, hein, vous avez des promotions, on vous respecte, hein. Mais il faut voir comment toute forme de religion idolâtrique, satanique, la synagogue de Satan, la pieuvre noire, pratiquement ça se ramène tout à l'avortement, au meurtre, pour que Satan puisse s'abreuver, s'enivrer à mort, on peut dire, du sang des innocents crucifiés. Et toutes les religions, ben, elles sont là pour ça. Pour que le sang des innocents coule et abreuve Moloch. Eh oui, et si vous n'êtes pas d'accord, et que vous quittez le temple de l'idolâtrie, alors votre vie est en danger. Ah oui, évidemment. Évidemment, tandis que Dieu, là, Dieu n'est pas Satan. Voilà ce que Saint Justin explique. Il n'y a pas à avoir peur de Dieu. Et c'est en toute simplicité, et c'est à l'intime de nous. C'est de profondeur, c'est comme ça. Tu peux pas dire uniquement en partie d'opinion, ben non, ton Dieu est pas comme ça, ton Dieu est comme ça, ou ton Dieu est comme ça. Dieu est au milieu de nous, Dieu est en nous, le Christ est en nous. C'est Jésus qui vit en nous. Mais quand on dit que Jésus vit en nous, Jésus vit en moi. C'est Jésus qui vit en moi. C'est Jésus qui est là. C'est Jésus qui est le Dieu Tout-Puissant, qui crée tout ce qui existe, qui crée toutes choses, qui crée chaque être humain. Il est en moi. Le trône. C'est Jésus. Qui a une toute puissance d'amour, de tranquillité, de simplicité, de proximité, de bonté, de bienveillance, de bienfait. C'est le Dieu créateur de bonté, d'amour. C'est le Dieu créateur de vie, des parfums, des splendeurs, des beautés. C'est le Dieu qui entretient tous ces. C'est Dieu qui donne la grâce. Il est un. Je vis. Jésus vit en moi. C'est Dieu qui rachète. C'est Dieu qui est crucifié. C'est Dieu qui est crucifié si je veux, si on veut. Hein. C'est Jésus. C'est Dieu qui nous rachète. C'est Dieu qui complète tout ce qu'on ne peut pas faire. C'est Dieu qui connaît toutes choses, qui scrute toutes les profondeurs de Dieu. Il est en moi. C'est Dieu qui transforme le monde, c'est Dieu qui... Il est en moi, il vit en moi, il est en moi. C'est le Christ qui vit en moi. C'est Jésus. Jésus, il vit en moi. Il m'aime vraiment. Hein. Son amour est fou. Est très, 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 très grand. Et Jésus, ben, ce Dieu Tout-Puissant, il vit en moi, il est en moi. Et moi, c'est ma vie, c'est Jésus. Saint-Esprit fait que, on peut dire que la paix intérieure, la joie éternelle de Dieu, dans lequel Dieu est, parce que Dieu est vivant, et ben, on peut dire que Saint-Esprit est en moi, à cause de Jésus. Et le trône sur lequel Jésus vit en moi, sur lequel il est établi, pour resplendir et vivre toute ma vie intérieure, toute mon âme envahie de Jésus, sur un trône qui est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint souffle comme ça, à séparer la présence de Jésus. Et Dieu nous aime, et cet amour. Ne cesse de grandir. C'est ça l'apologie, l'apologétique de Saint Justin. Tandis que Zeus, Anaconda, Jupiter, Moloch, c'était Dieu terroriste. Toutes les religions, d'ailleurs. Plus ou moins. Il y a des chrétiens qui sont des terroristes. Parce qu'ils ne vivent pas de l'union transformante. Mais si tu vis une transformation, tu échappes au terrorisme, à la terreur de Moloch, à la complicité avec l'avortement généralisé. Hein, il me semble. Aujourd'hui, c'est terrible. Hein, quand on pense que pour une naissance, une conception, aujourd'hui, ben, il y a 300 avortements. Non, je me suis trompé. Non, j'ai rajouté un zéro. Non. Pour une conception, enfin, dans le monde aujourd'hui, c'est comme ça. C'est, voilà. Il y a pour 30, c'est pas 300. C'est 3, voilà. Il y a une naissance. Et bien, à chaque fois qu'il y a une naissance sur la Terre aujourd'hui, il y en a 30 qui ont été déchiquetés, qui ont été assassinés, qui ont été donnés à Satan. 30 avortements pour une naissance. Voilà ce qu'on a aujourd'hui. On a une génération qui produit une... Ils ont tellement peur de Satan qu'ils adorent, qu'ils n'hésitent pas une seule seconde à protéger ce flot de milliards de sang répandu pour abreuver Moloch. Et ils sont à l'idée de quitter cette religion du sang. Ils sont terrorisés à la seule idée. Voilà. C'est impensable pour eux. C'est terrible, l'idolâtrie. L'initiation. L'initiation. l'initiation BCBG à Moloch. Bien aujourd'hui quand même, hein, excuse-moi, enfin, hein, sur les 50 dernières années, c'est ça, hein, à peu près. 30 avortements pour une naissance. Voilà ce qu'on a aujourd'hui. C'est bien pire que Néron. Eh bien, nous, envie de Jésus, envie de Dieu, et Dieu vit en nous, et notre vie intérieure, c'est la présence vivante de Jésus, c'est cet amour extraordinairement grand. Cette grâce, cette vie intime des profondeurs, qui scrute les profondeurs intimes, profondes et éternelles de Dieu, est en nous et se déploie, elle transforme tout. Elle transforme tout par le par l'humilité brûlante d'amour, par le coupe, par le dessous, vous voyez, par l'innocence que c'est triomphante. C'est ce fond-là qui prend la forme d'une coupe de diamant vivant, limpide, qui fait le salut du monde. Tiens, sont là. Et Jésus est là. Saint-Esprit, Marie. Et la Jérusalem nouvelle prend sa forme définitive. On pourra leur dire que c'est ça. Et ils pourront même en avoir la preuve, le sentiment. Même quelquefois des touches intérieures pour en avoir eux-mêmes une expérience. Ça ne les convainc pas. Ça ne les convainc pas parce qu'ils ont peur. Ils ont peur des conséquences. Ils ont donné leur vie à Satan sans l'avouer, mais ils appartiennent à Satan complètement sans le reconnaître. Mais ils agissent directement pour Lucifer et Moloch. C'est l'appartenance à Satan sans le savoir, sans le vouloir, le savoir ou sans. C'est terrible. Toute une vie comme ça. Sans s'arrêter. Mais l'Église, elle est là au milieu. Elle les porte dans la coupe de l'innocence. Les chrétiens, c'est Jésus qui les rachète, qui les aime, hein, aussi. Eh bien, Jésus vit en nous, c'est Dieu vivant. le moindre visage d'un chrétien est un réconfort pour l'univers et pour les anges qui nous regardent. Parce qu'il leur donne la certitude que tout sera repris dans la Jérusalem dernière. Et que la gloire, c'est-à-dire la victoire de l'amour sur tous les contraires, va finir par surgir, déborder, surabonder, se répandre. Et ça, c'est une certitude absolue. Dès lors qu'on est dans l'union transformante, on en a la certitude absolue, puisqu'on le voit. Comme Dieu le voit, comme Jésus le voit, comme Marie le voit. Parce que tout ça, c'est... Tous sont là, vivants, nous, dans la grâce. Puis une dernière chose, une petite note, pour la Saint-Justin, on peut quand même. Il a créé une école de philosophie à Rome. Et sur le plan donc de la philosophie de Dieu, il faisait la démonstration de l'existence de Dieu, forcément. Hein. Mais il a regardé, c'est marqué, c'est ce qu'il dit, il a regardé toutes les doctrines. Et on le retient, l'Église le retient, parce que il a fait ce qu'on appelle dans l'apologétique. Il a fait l'apologétique, c'est une... On peut dire, puis finalement, il a été martyrisé à cause de l'apologétique. L'apologétique, c'est pas de la philosophie morale, c'est pas de la théologie, je sais pas quoi, c'est pas de la théologie fondamentale, c'est pas de... Non, c'est pas de la métaphysique, c'est... L'apologétique, c'est... Tu écris un livre en disant c'est impossible que ce soit autrement. C'est les preuves, quoi. Les preuves, tu as des preuves. Tu fais tout un faisceau de convergence qui fait que c'est strictement impossible que la vérité ne soit pas celle-là. C'est l'apologétique. C'est l'apologétique. Puisqu'on parle aussi des moines philosophes de la communauté des frères de Saint-Jean, hein. Eh bien, pendant le père Marie-Dominique Philippe, c'était rare qu'il se passe une semaine sans qu'il ridiculise l'apologétique. Il dit, mais ça c'est de l'apologétique. Il y avait un mépris pour l'apologétique. Un mépris, mais profond pour l'apologétique. Un jour, il y a une petite sœur de Saint-Jean, je me rappelle, c'était à Cotignac. Elle parlait avec moi, je dis, mais oui, mais moi, vous, ce que vous m'avez... Je vous ai entendu, Père Patrick, mais... depuis maintenant deux ans que je suis aux études, vous, c'est de l'apologétique. Ça veut dire que ça ne vaut rien. Dans le langage du Père Marie-Dominique, ça veut dire que ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Eh ben, je signale pour la Saint-Justin. L'apologétique, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. L'apologétique, c'est par exemple de dire que les dieux de Rome, il y avait des temples, il y avait des vierges. Et dans cette idolâtrie, bon, il y avait des vierges, les sibylles, par exemple, les sibylles, il y avait des poèmes, il y avait des. Comme disait saint Paul à l'Aréopage avant-hier, hein, à Athènes. Eh ben, dans les poèmes de Virgile aussi, qu'on apprenait dans toutes les écoles, hein, jusqu'en 1960, tous les élèves en France apprenaient les poèmes. Il y avait la cour de latin, c'était obligatoire, je crois. Hein. Bon, maintenant c'est fini, mais bien sûr. Eh bien, les sibylles, toutes ces sibylles qu'on voit sur les peintures de la chapelle Sixtine à Rome, c'était 40, 50 ans avant Jésus-Christ. Et on a encore les poèmes de... Eh bien, elle disait exactement la date, que la Vierge, ce serait une Vierge sainte, pure, immaculée, virginale, qui engendrerait le sauveur du monde, etc. Et tout ça s'était mis en chanson dans les temples de Jérusalem. Il y avait une proximité quand même. Ah oui, il ne faut pas parler de ça. Et ça s'est passé à l'année près, et au jour près, et exactement ça. Ça s'est passé comme ça. Et puis, il y a eu quand Jésus est né, ben, il y a eu des sources d'huile parfumée dans Rome, qui ont jailli comme ça, la terre. Il y a eu des. L'apologétique, vous voyez, je prends des milliers de choses qui font partie de l'histoire incontournable, pour dire quand même, ah, mais ça, c'est de l'apologétique. Mais oui, mais si Dieu a fait le miracle de la conception virginale de Marie, c'est un miracle. Il ne fait pas des miracles pour rien. Et il ne fait pas des signes convergents pour rien. Sinon, le signe sacramentel n'est rien. Non, on ne peut pas. Hein. Donc je signale ça parce que. Pas se laisser. Quand je pense les milliers, les centaines de milliers de gens qui ont été formés en philosophie, en métaphysique, par la communauté Saint-Jean, et qui ont en eux cette espèce de mépris à vous. Presque vomissant de l'apologétique. Saint-Justin est mort pour ça. Jésus est mort en lui, crucifié, décapité, flagellé pour ça. Lui et ses compagnons. Alors, je rends honneur à Saint-Justin. Quand vous avez affaire quand même à on a affaire aux hommes, les hommes aujourd'hui, bien sûr, tu peux leur faire l'induction analogique synthétique de l'ousia en métaphysique d'Aristote, mais ça c'est honorable, ça c'est magnifique, ça c'est extraordinaire, mais tombez pas dans la tentation de l'apologétique. Presque quand le pape a parlé de la sponsalité, c'était de l'apologétique, c'est pour dire, vous voyez, hein, c'est un poème, c'est métaphorique. Et puis, il ne faut pas m'imprécier à la recherche de la vérité. Et ça existe, c'est une manière, c'est pas la principale. La principale, c'est l'union transformante. C'est la vie théologale, pneumato surnaturelle. C'est vrai, c'est la sainteté. C'est notre vie intérieure incarnée et féconde dès ce temps-ci dans l'éternité. passagère. Allons à sa rencontre. Volons, volons à sa rencontre. Car voici Jésus qui vient vers nous.